Le chiffre de la semaine, c'est 26,200 milliards de dollars. C'est la dette américaine. Est-ce qu'on doit dire help? Les chiffres sont phénoménaux. La dette est abyssale. Pourtant, la fête continue. Pascal nous disait tout à l'heure, oui, c'est de la dette, mais c'est de la dette qui va dans de l'investissement. On n'avait jamais vu de tels chiffres, surtout qu'on n'est pas en récession. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir une explosion de la dette et du déficit quand on est en récession. Est-ce que les États-Unis... En fait, comment tout ça va se finir, en fait, Valentine? Parce qu'on a l'impression que c'est nos limites, quoi.
Moi, je partage totalement le point de vue de Pascal. Si on peut évidemment s'inquiéter aujourd'hui sur la trajectoire de la dette américaine qui est absolument pas soutenable. Si on regarde la dette sur PIB aujourd'hui qui est à 100, qui continue d'augmenter. Si on regarde la charge des intérêts qui va représenter d'ici un an la moitié du déficit. Mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que cette dette, l'endettement des États-Unis est un moteur de croissance de l'économie américaine.
Jean-Marc Daniel vous dit c'est de la croissance à crédit, ça vaut rien.
C'est de la croissance à crédit, ça vaut rien, sauf que si on regarde, là j'ai les chiffres, depuis 2007, le PIB par habitant aux US est en hausse de près de 20%. Sur la zone euro, on est seulement en hausse de 7,6%. Et si on regarde la productivité depuis le Covid, et ça c'est vraiment extrêmement important, le PIB par heure travaillée aux États-Unis est en hausse de 6%, alors qu'en zone euro, on est presque flat.
On est
autour de 0,8.
Pour une fois, vous dites un truc important.
Merci. Donc, on est vraiment aujourd'hui, oui, les États-Unis s'endettent. Oui, si on reste sur cette dynamique d'endettement, on est tous d'accord, ce n'est pas soutenable. Sauf qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se renforcer en termes de productivité. La dynamique d'investissement reste très forte. Et la croissance qu'on a aujourd'hui, c'est aussi la capacité à rembourser sa dette de demain.
Vous dites que ce n'est pas grave, Pascal, parce que c'est de l'investissement.
Ce n'est pas grave, pas du tout inquiet. De toute façon, ils n'avaient pas tellement le choix, parce qu'il y avait besoin justement de continuer à travailler sur leur suprématie, de rapatrier des choses à la maison, de travailler tous les aspects autour de l'armement. Donc dans tous les cas, moi je dis que c'est pas grave, que ça a été bien fait, que la croissance est là, qu'effectivement il y a eu un enrichissement de la société américaine. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quand vous regardez l'état des entreprises américaines, aujourd'hui elles sont toujours avec énormément de cash, et ensuite elles se sont beaucoup endettées, mais à des taux très bas, avant que les taux augmentent. Donc juste post-Covid, elles sont endettées à taux fixe. Ça veut dire aussi que les entreprises américaines, elles sont prêtes à prendre le relais de l'investissement. Et moi, mon scénario, c'est que il va y avoir peut-être un petit peu moins de politique budgétaire expansionniste dans les années à venir, mais il y aura un relais qui sera pris par les entreprises qui vont continuer à travailler, notamment sur la transition énergétique et les investissements nécessaires au bon fonctionnement du pays. Donc, pas inquiète.
Benahouda, quand on prend une dette pareille, c'est qu'on a un sentiment de puissance totale.
Oui, même d'omnipotence. La oui. Preuve, il n'y a pas meilleur avocat pour les États-Unis que vu de l'extérieur. Si vous prenez l'entretien qu'a donné cette semaine l'autorité de surveillance du budget américain auprès du Congrès, le CBO, au Financial Times, il vous décrit une situation des finances publiques apocalyptique. Il dit qu'il n'a jamais vu ça, qu'une trajectoire... C'est le patron du CBO, ouais. Hein, ce n'est pas un commentateur d'un plateau télé qui le dit. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on se dit ça arriverait à le dixième arrive à un autre pays, il aurait déjà explosé d'un point de vue financier. Je vous donne juste une illustration de ce sentiment de toute puissance. Le commandement du Pacifique, l'US commandement du Pacifique, a réclamé 11 milliards de dollars de plus pour le budget de 2025. 11 milliards de dollars, ça représente 20% du budget militaire de la France. Puissance nucléaire, membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 11 milliards de dollars de plus par rapport à ce qui lui a été appliqué pour établir un système de missiles anti-aériens dans l'île de Guam, face à la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il suffit de demander et qu'on obtient.
Et ils obtiennent.
Et ils pourraient obtenir. Sachant que le budget du Pentagone est à pratiquement 800-900 milliards, je ne me souviens plus exactement, vous pouvez m'en excuser. Et de ce point de vue-là, c'est ce sentiment de toute puissance qu'on peut toujours tirer un chèque.
Mais alors vous dites sentiment de toute puissance. Moi, ma question, c'est sentiment de toute puissance ou réalité de toute puissance? C'est
sentiment.
Ça ma question.
Sentiment.
Parce qu'il y a quand même, au-delà du sentiment de toute puissance, Valentine en parlait tout à l'heure, Pascal aussi, on a quand même une réalité de toute puissance. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs aujourd'hui où il n'y a plus de combat, il n'y a plus de sujet. Je veux dire, la messe est dite, la domination est américaine.
Dans un certain nombre de secteurs, effectivement, mais non, il y en a un tas d'autres où.
Vous dites que vous dites qu'il y a des faiblesses.
Mais bah, bien entendu.
Non, mais c'est intéressant.
Et encore une fois, on se réfère à ce que dit le CBO.
Je comprends qu'il y a une faiblesse économique,
mais une faiblesse aussi démographique, une croissance économique qui repose en réalité. Et je renvoie encore une fois au professeur Daniel, qui est notre guide à tous. C'est cette croissance économique qui repose sur la force de travail, sur les forces vives extérieures, parce que eux aussi sont confrontés à un problème de force de travail intérieure. Donc de ce point de vue-là, ils n'échappent pas somme toute au sort qui est celui de.
Mais ils le compensent parce que eux, d'abord, ils ont une démographie qui est très forte, et puis l'immigration, elle est débridée. Donc à partir du moment où elle est débridée, elle est soi-disant illégale, mais en fait, elle est totalement tolérée, et c'est ce qui permet. Permet de donner de la vitalité au pays.
C'est ce qui permettrait aussi à Donald Trump de revenir à la Maison Blanche en ayant les mains libres pour mener sa politique, parce que c'est aussi cette question migratoire qui est devenue extrêmement prégnante dans le débat public, quand je dis la controverse publique américaine. Donc il y a aussi ce problème-là qu'ils n'ont absolument pas résolu, et qui est, enfin, si vous prenez ce qui est en train de se passer entre Haïti, où il y a 100 000 Haïtiens qui sont à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, que vous avez la Floride qui envoie des centaines d'hommes en mer pour empêcher les éventuels boat people haïtiens d'arriver, je peux vous assurer que politiquement, c'est un problème énorme, quel que soit l'apport en économie et sur la croissance potentielle.